Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Ils sont nombreux, ces enfants de moins de 18 ans, qui sont soumis et qui travaillent au lieu d'aller à l'école. Certains sont soumis à des lourds travaux dans les carrières minières. D'autres pratiquent le petit commerce sur les places publiques. Ils deviennent carrément des vendeurs ambulants. Ils vendent du pétrole, ils vendent des cacahuètes. Certains sont des petits cireurs. Tout ça pour avoir un peu d'argent, pour aider les parents. Bon, voilà, ils vont pas à l'école. Conséquence, c'est ça la grande, le drame. Ces enfants ne vont pas à l'école, les parents n'ont pas de moyens, donc ils doivent faire tous ces petits travaux pour survivre. Alors, que faire pour lutter contre ce phénomène? Nous en parlons avec le professeur Norbert Lupici. Il est spécialiste en enfance marginalisée. Professeur Lupici, d'abord, la première question est de savoir pourquoi aujourd'hui de plus en plus les enfants travaillent au lieu d'aller à l'école.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de cette opportunité que tu m'accordes de parler à nos nombreux auditeurs. La question est complexe et les éléments de réponse sont également complexes. Moi, je préfère d'abord partir du constat qu'effectivement, ils sont nombreux, comme vous l'aviez dit, les enfants âgés de moins de 18 ans au Congo qui travaillent, et ce, dans beaucoup de secteurs de la vie, tels que dans les mines, dans les transports en commun, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les ménages. Et dans tous ces secteurs, les enfants sont victimes de certains traitements qu'ils ne méritent pas, au regard bien entendu de leur statut, parce qu'ils sont considérés comme des êtres vulnérables, des êtres immatures physiquement, émotionnellement et même intellectuellement.
Voilà, des êtres immatures moralement, physiquement, voilà, intellectuellement. Alors, vous dites qu'il y a plusieurs raisons, lesquelles?
Là, je me mets dans ma casquette de membre, donc je ne suis pas qu'enseignant-chercheur sur l'enfance marginalisée, mais je suis aussi membre du comité provincial du Katanga, des luttes contre les pires formes de travail des enfants. Alors, et par rapport à cette thématique du travail des enfants, nous avons eu à y mener des recherches et des études. De manière détaillée, on retient comme cause les éléments suivants. Première cause, l'industrialisation. Ça, c'est par rapport au Katanga. Les sociétés minières poussent comme des champignons, vous voyez. Et parfois, dans les environs des résidences habitées. Et cela expose les enfants. Donc il y a l'industrialisation désordonnée, il y a le délabrement du tissu économique, il y a l'effritement du lien social, il y a la pauvreté avec tous ses corollaires, notamment les bas salaires, les salaires irréguliers. Il y a aussi une autre cause importante, ce sont les troubles politiques. Et les conflits armés. Voilà, mon ami, le premier paquet des facteurs que j'évoque, mais on peut toujours allonger la liste. Voilà.
Voilà, on peut toujours allonger la liste. Vous avez parlé de l'industrialisation, les délabrements du tissu économique. J'imagine, vous parlez aussi de la pauvreté, l'effritement du lien social. Par rapport au lien social, de quoi s'agit-il exactement?
Par rapport au lien social, mais vous devez savoir que la loi qui protège l'enfant au Congo, la loi 09 du 10 janvier 2009, insiste sur les milieux dans lesquels l'enfant doit évoluer pour s'épanouir. Et le premier milieu ou le premier cadre, c'est la famille. Quand on parle du délabrement, c'est-à-dire, c'est la déstabilisation des familles dans lesquelles les enfants sont appelés à évoluer. Et après la famille, évidemment, la société congolaise, elle aussi. Donc, c'est ça.
Voilà, ce sont là les raisons qui font que les enfants se trouvent aujourd'hui en train de travailler. Et par rapport à la province du Katanga, vous avez sûrement amené des recherches par rapport à cette situation. Quels étaient les constats faits sur le terrain?
S'il vous plaît, j'ai pas bien retenu la question.
J'ai dit, par rapport à ces thèmes, vous avez eu sûrement à faire des recherches au Katanga, par rapport à l'industrialisation, les travail des enfants. Alors, à quel résultat vous êtes arrivé, professeur?
Le premier résultat par rapport à la présence des enfants dans les sites miniers, le premier résultat d'abord, c'est donc la confirmation des propos que nous venons de tenir. Donc, les enfants sont bel et bien présents dans les sites miniers. Mais par rapport aux sites miniers, pour parler en profondeur, nous avons distingué beaucoup de catégories d'enfants. D'abord, par rapport à l'activité industrielle elle-même. Il y a le creusage, il y a le port des minerais, il y a le lavage, il y a la vente. Donc, tous les enfants qui sont présents dans les sites miniers, ils participent à toutes ces activités industrielles. Évidemment, tout ceci, nonobstant ce que j'ai dit au début, leur vulnérabilité, leur immaturité physique, intellectuelle et morale. Donc, ils sont présents par rapport à toutes ces activités industrielles. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont directement impliqués dans ces activités industrielles. On remarque aussi dans les sites miniers, les enfants, par exemple, que nous avons considérés comme les crèches. C'est-à-dire, il y a des jeunes filles, parce que leurs mamans ont des bébés et sont appelées à travailler dans les sites miniers, les mamans se font accompagner des jeunes enfants qui doivent les aider à porter les enfants dans les sites miniers. Et cette catégorie d'enfants-là est appelée crèche. Donc, le terme dit déjà quelque chose. Et enfin, il y a aussi les bébés eux-mêmes, les enfants, que nous avons qualifiés des sans-voix. Donc, ils sont dans les sites miniers sans savoir pourquoi ils y sont. Et là, ils subissent aussi de manière indirecte les effets d'être dans les sites miniers.
Voilà. D'accord. Et quelles sont les conséquences que cela entraîne, le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants sont en train de travailler? Quelles sont les conséquences de cette situation, de ce phénomène?
Mais les conséquences sont nombreuses par rapport aux enfants à l'âge de scolarité, mais c'est d'abord la déperdition scolaire. Ça, c'est la première conséquence lamentable, parce que vous le savez, je ne vous l'apprends pas, l'enfant est considéré par toutes les communautés comme l'espoir de demain. Mais un espoir, moi j'apprécie la réflexion d'un auteur qui s'appelle Galland. Lui il dit, l'enfant ne sera espoir de demain que par rapport à ce que la société fait de lui aujourd'hui. Donc la première conséquence, c'est la déperdition scolaire. Et la deuxième conséquence, c'est la santé même de l'enfant, quand on travaille dans les sites miniers, dans des conditions peu vérifiées, on est exposé aux irradiations, à toutes sortes de maladies. Donc, la liste peut aussi s'allonger, donc c'est ça.
Voilà, la liste peut s'allonger, on parle de la déperdition scolaire et la santé de l'enfant qui est mise en jeu. La Guilloire nous appelle d'Ekalemi dans la province du Katanga, il va poser sa question tout à l'heure. La Guilloire, bonjour.
Bonjour jeudi et bonjour à l'invité et à tous les autres.
On vous écoute, la Guilloire.
Merci. Je dois essayer un peu d'étaler un état des lieux à ce sujet. Je dois attirer avec des questions que je dois poser à l'invité. Je pense que le sujet est très intéressant. Le phénomène de l'enfant marginalisé ici à Kalemi ou au Katanga, ce phénomène est en train de connaître un boom. Pourquoi? Parce qu'avec les sites miniers, on retrouve beaucoup d'enfants dans les sites miniers. Et puis, si je place à Kalemi, par exemple, il y a des enfants qui pratiquent des petits métiers. Au moment où les enfants devront se retrouver à l'école, les enfants passent les activités à la crèmerie, ils prennent de la crème pour faire la vente, font la vente de sachets dans les marchés, les autres également se livrent à la délinquance juvénile, escroquer les petits montants des autres. Mais je pose la première question qui intéresse l'invité. Le sujet, nos honorables députés, bien sûr, de la province du Katanga, avaient voté beaucoup de vie. Mais on ne voit rien. Le ministère devait faire le suivi de la situation de tout ce que je dis, qui est dessus. Et on n'a pas vu son travail. Mais est-ce qu'avec les IP, c'est l'État congolais qui ne veut pas faire le suivi? Et ce phénomène est plus exécuté et visible dans des églises surtout de réveil. Si c'était le gouvernement congolais qui était à la base, soit qui est à la base, lui en tant qu'exécuté, qu'est-ce qu'il pourra dire au ministère de la Justice qui devait appliquer les lois nationales et les édits provinciaux? La deuxième préoccupation, lui, en tant qu'exécuté, qu'est-ce qu'il fait concerner tous ces parents qui font lorsqu'ils partent avec les enfants à l'église, si c'est l'enfant de la conjointe et de la conjointe sortante, et que le pasteur vient de dire l'enfant devient sorti et on le jette dans la rue. Qu'est-ce qu'il fait concerner ces parents? Ils font faire des textes devant des mafios. C'est pourquoi nous demandons seulement que la radio Capitale puisse continuer avec les types de émissions ou que la communauté retourne, la communauté enfantine.
D'accord. Voilà, merci, la Guiloua. Drop nous appelle de Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, Yadi.
On vous écoute,
bonjour,
Drop.
Bonjour, monsieur l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, moi, je vous... D'abord, avant que je ne pose ma question, j'ai au moins un témoignage par rapport au milieu où nous vivons à Guémena.
Oui.
Il y a un phénomène qui s'est produit ici, mais qui est réparti à deux manières. Les enfants travaillent partout. Ils vendent des eaux et tous les autres. Mais il y a une autre équipe qui s'est livrée à la débauche comme un travail où vous les trouvez vraiment les soirs. Ils se sont postés les jeunes filles. Les gens viennent de poser la question. Ils ont pris non combien? Ils ont pris non combien? Donc, jusqu'à ce niveau-là, et on ne sait pas où est-ce qu'on pourrait encaisser tous ces enfants-là. Et vous remarquerez beaucoup plus sont des filles, mais de moins de 18 ans. La grande majorité de ces enfants-là ont moins de 18 ans. Et ce sont souvent des filles mères. Mais les parents de ces enfants existent. On les appelle ici enfants travailleurs, tout ça. Mais la question maintenant que je voudrais poser est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut faire pour limiter ces phénomènes-là dans le milieu où cela est répandu vraiment et est devenu comme une habitude? C'est la question que je voudrais poser à l'invité.
D'accord. Merci, Ngoï. Nous appelle des Kindou dans la province du Maniema. Bonjour. Ngoï n'est plus en ligne, désolé. Je reviens à notre invité, Norbert Lofti. Vous avez suivi ces deux auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Merci, messieurs les journalistes, de nous mettre en relation. D'abord, par rapport au premier intervenant, mon ami de Calémi, je suis très content, je suis d'accord avec lui, qu'il ait aussi fait le même constat. Donc, à Calémi, les enfants aussi travaillent. Ça donne à toutes sortes de travail. Et là, ça me permet d'affirmer, même par rapport au deuxième intervenant qui a appelé depuis Guémena, pour dire que ce phénomène est général dans notre pays. Alors, je suis d'accord également avec tous les commentaires qu'il a donnés, les premiers intervenants de Calémi, mais j'attaque directement les questions qu'il soulève. Il relève la responsabilité de l'État congolais et la responsabilité des églises. Et il demande, c'est ce que fait le gouvernement. Je vais répondre de cette manière. Sur le plan des textes juridiques, le gouvernement congolais fait déjà quelque chose. Par rapport au travail des enfants, il y a déjà deux ministères qui avaient été signés. Le premier, le 10 juin 2006, et le deuxième, le 2 septembre 2008, pour essayer de réglementer le travail des enfants. Mais comme vous le savez, il y a toujours un écart entre les textes et la réalité. Et le texte le plus important, c'est la loi du 10 janvier portant protection de l'enfant. Et cette loi, c'est déjà un document très important, c'est un outil important que la RDC s'est dotée. Mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Cette loi-là, quand on l'analyse en profondeur, elle a bien sûr des écueils, mais dans l'ensemble, c'est déjà un document important. La protection de l'enfant est éclatée en trois. Il y a la protection sociale. Mais ce qui est prévu au niveau de la protection sociale, est-ce que c'est suivi? Ça, c'est ma question. Il y a la protection judiciaire. Par rapport à ça, on a annoncé la création des tribunaux pour enfants. C'est vrai, mais ça fonctionne comment? Et il y a même la dernière partie qui parle de la protection pénale. Il y a des sanctions prévues pour les parents qui traiterait mal les enfants. Donc, je réponds à l'auditeur en disant, la RDC a fait un petit pas en élaborant la loi, mais c'est l'exécution et le suivi qui fait problème. Bon, par rapport au deuxième volet de sa question, les parents à l'église. Nous avons aussi conduit des études sur les enfants dits sorciers. Nous, nous les appelons enfants dissociés. Très souvent, ces enfants sont victimes des étiquettes tout à fait gratuites. Et là, comme il l'a dit, ce sont les pasteurs d'église qui sont responsables. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui.
Nous devons conscientiser, continuer à conscientiser. Et peut-être pour entrer en détail, je vais le dire au niveau de l'intervention de monsieur qui est en Guémena.
Oui.
Donc il y a trois paliers sur lesquels il faut agir. L'État a ses responsabilités et les institutions d'encadrement ont aussi leurs responsabilités. Et les parents à leur niveau, qui est le niveau que j'appelle micro, ont aussi des responsabilités. Moi, je ne vois pas comment un parent responsable peut se laisser entraîner aveuglément par une église. Vraiment, c'est dommage. C'est un peu comme on dit toujours dans la Bible que faute de connaissances, on périt. Ça, c'était par rapport au premier intervenant de Calémie. Si vous permettez, mon ami journaliste, que je passe à l'intervention
des drops de Guémena.
Qui est à Guémena,
bien
oui.
Sûr. Oui, allez-y.
Je suis aussi d'accord avec lui parce qu'il partage mon constat. Il dit que même à Guémena, à l'Équateur, les enfants travaillent partout. Et que faire pour limiter les dégâts? Il y a les mesures à court terme. Les mesures à court terme, d'abord, c'est récupérer les enfants pour les placer dans les institutions d'encadrement. Et là, c'est au niveau méso. Je crois qu'il y a une responsabilité de l'État et même de la société civile aussi pour créer des structures viables de récupération rapide des enfants. Et maintenant, à long terme, nous devons éliminer tous les facteurs macro, la pauvreté. Aussi longtemps que les familles congolaises seront pauvres, misérables, ces genres de phénomènes seront au rendez-vous.
Voilà, ces genres de phénomènes seront au rendez-vous. Mardoché nous appelle des Guémena. Il est aussi à Guémena, dans la province de l'Équateur. Mardoché, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre question, Mardoché?
Le sujet du jour est vraiment très intéressant. Selon moi, la responsabilité est partagée entre le gouvernement de notre pays, qui ne veulent pas ce que les parents des enfants soient capables de former leurs enfants. Je vais vous dire qu'une fois j'étais dans la province orientale, dans le territoire de Bondo, district de Haute-Ouvéil, j'avais vu aussi des enfants âgés de 10 ans qui travaillent dans des carrés minés. Alors, un jour, j'avais posé la question à ces enfants-là de savoir quelle en était la cause. L'enfant-là m'avait dit que papa Alingaka Kufute Langa classe était Yangonde Nayeko Kaskadi. Vous savez. Donc, l'impossibilité a fait que l'enfant puisse travailler pour prendre en charge lui-même. Ça fait quoi? C'est-à-dire, notre gouvernement ne veut pas vraiment prendre en charge les parents qui travaillent et afin de bien s'occuper de leurs enfants. C'est ça qui pousse à ce que beaucoup de nos enfants aujourd'hui ne veulent pas étudier, mais plutôt aller travailler dans des carrés miniers. Donc pour moi, pour arrêter ce système, il faut que le gouvernement prenne en charge tous les fonctionnaires qui travaillent chez lui. Et deuxièmement, que les parents prennent aussi en charge la responsabilité d'éduquer leurs enfants. Si tu n'as pas beaucoup de moyens, il ne faut pas aussi beaucoup mettre au monde. Donc, je sais que la responsabilité est partagée. Je vous remercie.
Bien, la responsabilité est partagée. Et d'ailleurs, pour compléter, il y a un rapport de l'UNICEF de 2012 qui indique qu'il y a au moins 7 millions d'enfants à RDC qui sont en dehors du système scolaire, dont 3 millions, c'est 3 millions de filles, voilà, dont 3 millions de filles ne vont pas à l'école. Généralement, se retrouvent en train de travailler. Et comme nous a dit Drop de Guémena, il y a des filles qui se livrent à la débauche et tout ça. Alors, pour résoudre ces problèmes, les intervenants reviennent toujours à la responsabilité de l'État. Norbert Lopici, qu'est-ce que vous pouvez dire à Mardoché de Guémena?
Merci, monsieur le journaliste. Je partage le point de vue de monsieur Mardoché. La responsabilité est partagée. Lorsqu'il affirme ainsi, et ça réconforte ma manière d'analyser les choses, parce que j'ai toujours considéré qu'il y a des choses à faire au niveau macro, au niveau méso et au niveau micro. Mais je voudrais insister plus particulièrement sur le niveau qui concerne les parents. Et je crois que les parents, selon le constat que je fais, il y en a qui sombrent dans l'ignorance. l'ignorance d'abord des droits de l'enfant. L'ignorance sur la manière de traiter l'enfant. Vous trouvez, même dans le ménage, une femme peut se plaire à réveiller son enfant à 4 heures, soi-disant qu'elle est en train de le préparer à devenir future femme. Donc, là, je dirais, par rapport à la mentalité, il y a encore le poids de nos traditions. Il y a des gens qui ne veulent pas évoluer mentalement, qui pensent que, en faisant travailler l'enfant très tôt, on est en train de le préparer à la vie future. Mais c'est là que je demanderai encore à l'État de retravailler la loi portant protection de l'enfant pour la vulgariser dans toutes les langues, si possible, ou dans plusieurs langues. Il y a donc un travail de vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant, et cela pourrait aider les parents à changer de mentalité et éventuellement à changer la manière de traiter les enfants. Parce qu'un enfant n'a pas droit à soutenir la famille. Il est protégé, c'est un être vulnérable. Et il revient encore, notre ami, sous la responsabilité de l'État. Qu'on le veuille ou pas, l'État est le principal acteur organisateur de la vie en société. C'est à l'État de poser les premiers pas. Pourquoi nous avons des familles pauvres? Mais c'est à l'État de répondre à cette question. Pourquoi nous avons des familles à parentalité dysfonctionnelle, aux parents incapables de répondre à leurs besoins? Moi, je crois que c'est à l'État, puisque toujours à travers les textes, l'État se charge, c'est écrit noir sur blanc, de soutenir les familles en difficulté. Mais vous verrez que l'État est en train d'échapper à ses responsabilités. Donc, je me résume en disant, effectivement, Mardoché a raison, la responsabilité est partagée. L'État doit prêcher par l'exemple. Mais aussi, au niveau bas, les parents doivent essayer de changer de mentalité pour ne pas traiter les enfants comme eux.
Voilà. Les parents doivent changer de mentalité. Alors, vous vous occupez, Norbert Lopetit, de tout ce qui est pire forme de travail des enfants. Alors, quand on parle des pires formes de travail des enfants, de quoi s'agit-il exactement? De quel type de travail s'agit-il?
Ah, ça, c'est très bien. C'est une belle question. Là, je réponds... La réponse se situe au niveau de l'article 53 de la loi qui protège l'enfant au Congo. Qu'est-ce qu'on entend par pire forme de travail de l'enfant? Je résume le dernier alinéa qui dit ceci. Les pires formes de travail des enfants, ce sont les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité et à la moralité de l'enfant. Voilà ce qu'il faut entendre par pire forme de travail de l'enfant.
Et pouvez-vous citer quelques travaux auxquels les enfants sont
là, pour citer quelques travaux, je préfère y aller par des secteurs, procéder par des secteurs. Mmh. Lorsque vous prenez le secteur agricole, moi j'ai vu, d'ailleurs j'ai eu la chance d'aller à l'Est, je suis rentré il y a une petite semaine à Bukavu, dans les périphéries, j'ai vu les jeunes enfants, à l'âge d'aller à l'école, conduire du bétail. Donc, ce sont eux qui sont appelés à nourrir le bétail. Et là, de longueur des journées. Mais ça, c'est lamentable, parce que c'est déjà une pire forme de travail de l'enfant. Vous voyez? Mmh. Et quand est-ce que cet enfant aura le temps d'aller étudier? Ça, c'est un exemple. Et lorsque nous changeons aussi des secteurs, les secteurs industriels, n'en parlons pas, je l'ai dit. Les enfants travaillent dans les sites miniers où ils constituent une main-d'œuvre moins payée, avec toutes les expositions possibles aux contaminations. Hein. Voilà une autre pire forme de travail des enfants, dans les sites miniers. Et lorsque nous prenons aussi le secteur commercial, que nous appelons le petit commerce, mais ça fait pleurer, mon ami, si on a un cœur. Des journées entières, nous voyons des enfants qui, avec un tas d'œufs sur la tête, si on a les bars, les buvettes, les bureaux, mais ça fait pleurer. Moi, je me dis, mais ces enfants-là, ont-ils des parents ou pas? Mais voilà une autre forme, une autre pire forme de travail des enfants. Et on peut toujours continuer, même en famille, je l'ai dit. Il y a des parents, des mamans, particulièrement par rapport à leurs filles, qui se plaisent à traiter leurs enfants de n'importe quelle manière, soi-disant qu'on est en train de les préparer culturellement à devenir de futures femmes. À 4 heures du matin, la maman est au lit, mais l'enfant est appelé à torchonner. Donc, voilà une autre pire forme de travail que beaucoup de gens ignorent. Et parfois, même dans les milieux scolaires, jusqu'à aujourd'hui, il y a des enseignants qui pensent que l'enfant doit être fouetté quand il a échoué. Franchement, ce thème mérite une vulgarisation. Donc, voilà autant des pires formes de travail des enfants, pour me limiter là.
Alors, si je comprends bien, là, vous avez dit tout à l'heure que la responsabilité est limitée, il y a la famille, il y a également l'État. Si je comprends bien, mais il y a un grand travail qui doit être fait au niveau des familles, au niveau des pour conscientiser ces parents qui se permettent d'envoyer les enfants à les vendre à longueur de journée, les œufs, au lieu de les envoyer à l'école.
C'est ça. Ça, c'est mon point de vue.
Ouais. Qu'est-ce qui doit être fait et comment doit-on procéder pour sensibiliser ses parents, professeurs?
Moi, j'ai dit, le seul côté que j'ai trouvé positif par rapport à ce que fait le gouvernement, c'est l'élaboration de la loi portant protection de l'enfant. La première chose à faire, parce que le contenu de cette loi est déjà plus ou moins riche, il faut vulgariser cette loi. Il faut conscientiser. En vulgarisant, on conscientise aussi les parents. Parce que, et d'ailleurs, cette loi, elle a aussi un aspect positif très intéressant. À travers cette loi, on montre aussi à l'enfant qui est protégé qu'il a aussi des devoirs vis-à-vis de ses parents et de la nation. Je crois que si on commençait par là, on ferait déjà une très bonne chose. Mais aussi, faut-il que les animateurs appelés à vulgariser ce travail soient suffisamment préparés. Ça, c'est un. Le deuxième élément, je ne cesse de le dire, il ne faut pas, quand un mal est là, il ne faut pas s'attaquer aux symptômes, il faut s'attaquer à la racine mère. Et la racine mère, c'est la pauvreté. Aussi longtemps que nous aurons des familles incapables de répondre efficacement aux besoins de leurs familles, ces genres de phénomènes ne manqueront pas. Ils seront au rendez-vous, comme je l'ai dit. Et pour terminer, au niveau des parents, on doit les sensibiliser. Mais déjà, à partir de la vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant, il y a une part réservée aux parents. On peut les sensibiliser et leur montrer qu'il y a même des peines prévues par la loi vis-à-vis des parents qui maltraiteraient les enfants ou qui soumettraient les enfants à des travaux durs. Voilà.
Bien, merci professeur Norbert Lopetti. C'était un plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui pour échanger sur ces thèmes, comment lutter contre le travail des enfants. Je rappelle que vous êtes spécialiste en enfance marginalisée. Vous intervenez depuis Lubumbashi au studio des radios Capi à Lubumbashi. Merci professeur et bonne journée.
Merci beaucoup. Merci.